à l'heure, 6h42 à Paris. À suivre dans les toutes prochaines minutes, reportage en Tunisie autour d'une statue de Bourguiba, une statue qui voyage. Notre invité Afrique, le sous-secrétaire général de l'ONU, Mohamed Malik Fall, pour évoquer la crise humanitaire dans le nord-est du Nigeria. Afrique économie, en Centrafrique, le défi du développement du secteur privé. Et avant le journal, on retrouvera Maman qui nous dit qu'il y a des chiffres, et des chiffres partout. Et pour les sports en direct, voici Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Arnaud.
En football, début de la Ligue des Champions en Europe, toujours la compétition de clubs la plus prestigieuse, qui connaît une cure de jouvence pour cette saison.
Oui, avec une nouvelle formule censée la rendre encore plus attractive, une phase de poule renforcée, plus d'équipes, plus de matchs, plus de chocs. L'UEFA a voulu innover, mais a au passage étoffé un calendrier déjà très chargé, ce qui pourrait ne pas être sans conséquences pour les joueurs. Cédric de Oliveira.
36 clubs réunis dans un seul et même championnat qui feront chacun 8 matchs, soit 2 de plus que l'an passé dans une phase de poule qui s'étirera jusqu'à fin janvier. C'est la grande révolution de cette nouvelle formule. Le calendrier s'est alourdi, mais Pep Guardiola, vainqueur en 2023 avec Manchester City, est prêt à s'adapter.
Oui, il y a plus de matchs, mais c'est comme ça. On va jouer l'Inter Milan, la meilleure équipe d'Italie de ces dernières saisons, et on va devoir enchaîner, on va devoir faire avec. Moi, j'adore la Ligue des Champions, et on va la jouer comme tel.
L'objectif sera de terminer parmi les 8 premiers ou à minima de décrocher une place de barragiste pour ceux qui seront classés de la 9e à la 24e place. Une curiosité qui promet tout de même des chocs à répétition. Mais Carlo Ancelotti, le mystère du Real Madrid, tenant du titre, est surtout inquiet pour la santé de ses joueurs.
On ne sait pas si cette formule pourra être plus divertissante ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a 2 matchs en plus. Et ce serait bien que les organisateurs s'imaginent que les blessures peuvent arriver parce qu'on risque d'avoir un problème. Et j'aimerais qu'on puisse réduire le nombre de matchs pour avoir des compétitions plus attractives.
Déjà un détracteur donc pour cette nouvelle Ligue des Champions dont la finale aura lieu le 31 mai prochain à Munich. 189 matchs sont prévus cette saison, un record. C'est 55 de plus que dans la formule précédente.
Et ça commence donc ce mardi avec 6 rencontres à suivre: Juventus-Turin, PSV Eindhoven ou encore les débuts de Lille en déplacement à Lisbonne face au Sporting Portugal. Également à l'affiche Milan AC Liverpool, Real Madrid-Stuttgart pour les débuts de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec son nouveau club.
En Afrique, la CAF, la Confédération Africaine de Football, a révélé hier le calendrier du futur CHAN.
Il se tiendra du 1er au 28 février. C'est à Nairobi, en marge d'une rencontre du comité exécutif, que la Confédération africaine l'a annoncé. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda en seront les pays hôtes. 3 nations désignées par ailleurs pour accueillir la CAN 2027. Cette 8e édition du CHAN sera toujours destinée aux footballeurs africains évoluant sur le continent, mais avec une modification par rapport à la formule initiale. Les joueurs ne sont désormais plus tenus d'évoluer dans le championnat de leur pays. En tout cas, du pays dont ils défendent les couleurs.
En tennis, fin de saison pour 11 Jabeur.
La Tunisienne a mis fin à une année 2024 décidément compliquée. Mon équipe médicale et moi-même avons pris la décision difficile de quitter le circuit pour le reste de la saison, a-t-elle annoncé sur ses réseaux sociaux. Touchée à l'épaule, Jabeur est retombée à la 22e place du classement mondial. Elle sort d'une saison où elle a notamment dû renoncer à disputer les Jeux Olympiques.
On termine avec le cyclisme et la 2e étape du Tour de Côte d'Ivoire. Le Cameroun reste aux avant-postes.
Avec Clovis Kamzanga Bosolo qui a franchi en premier la ligne d'arrivée lors de l'étape courue entre Grand Laou et Songon. Aujourd'hui, 3e étape entre Konefla et Saint-Fra au centre-ouest du pays sur une distance de 90 km.
Merci à vous Antoine Grenier et à tout à l'heure dans RFI Matin.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
Avec à la une ce mardi 17 septembre, le Proche-Orient et les nouveaux buts de guerre de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien annonce que le retour des Israéliens qui ont fui le nord du pays est désormais un objectif. Des dizaines de milliers d'habitants ont quitté la zone frontalière avec le Liban en raison des tirs quasi quotidiens du mouvement islamiste libanais Hezbollah. Dans l'actualité également, les États-Unis, la campagne électorale avant la présidentielle du 5 novembre, c'est dans moins de 50 jours maintenant. Donald Trump repart dès aujourd'hui en campagne dans le Michigan, alors qu'il a réchappé à une deuxième tentative d'assassinat présumé dimanche dernier. Le suspect, on le sait, a été arrêté sans avoir ouvert le feu. Et Trump accuse directement Joe Biden et Kamala Harris d'être à l'origine de cette tentative d'assassinat en raison du climat qu'ils font régner, climat de violence dans cette campagne électorale, a-t-il laissé entendre. La suite à présent de notre série sur ces objets du patrimoine africain, ces pièces de musée qui racontent un pan de l'histoire de leur pays. Hier, nous vous parlions du masque Moinapo en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en Tunisie, au cœur de la capitale, en pleine avenue Bourguiba, où trône une statue du père de l'indépendance tunisienne. Cette statue a eu un destin pour le moins chaotique puisqu'elle a été inaugurée avant d'être déboulonnée, puis réinstallée. Amira Swilem, à Tunis, nous raconte l'histoire de cette statue qui ne tient pas en place.
Juché sur un cheval, Bourguiba, revenu en héros de son exil français en 1955, parcourt Tunis et fend la foule qui l'acclame et le réclame. Leader à l'ego surdimensionné, il exige qu'une statue à son effigie rende hommage à ce moment. Ce sera chose faite en 1978, en haut de l'avenue Bourguiba. Ça ne s'invente pas.
Voilà, au fond de l'avenue, il y avait autrefois la statue de Jules Ferry durant la colonisation. Bourguiba s'était fait un point d'honneur de remplacer cette statue par une effigie le représentant lui-même.
L'histoire de cette statue, Hicham Ben Ammar, réalisateur, y a consacré tout un film. Déboulonnée en 1988 à la demande de Ben Ali qui vient de réaliser un coup d'État contre le leader suprême, la statue, pied de nez au despote, retrouvera son emplacement en 2016 dans le sillage de la révolution tunisienne. Le documentariste tunisien a pu rencontrer Hechmi Marzouk, l'artisan qui a donné vie puis restauré la statue.
J'ai participé à un concours international. Le jury a délibéré sans voir les noms des artistes. Ils ont demandé au président Bourguiba de faire son choix, sans rien savoir de nous, et c'est moi qui l'a choisi. Quand ils lui ont dit que j'étais tunisien, il a dit « J'en étais sûr, seul un Tunisien pouvait saisir aussi bien ma personnalité et mon caractère. »
À la faveur du retour de la statue au centre de Tunis, la caméra de Hicham Ben Ammar capte de vifs échanges entre Tunisiens.
Vive Bourguiba ! Yahya Bourguiba !
Bourguiba en Tunisie, soit on l'adore, soit on le déteste.
Justement, parce que c'est une figure paternelle, donc... Elle ne peut faire l'objet que de l'adoration quand elle fait objet d'adoration. Elle ne peut faire l'objet de détestation quand il s'agit de détestation. On n'est pas encore en mesure de filtrer. L'inscription du message de Bourguiba dans l'histoire ne peut se faire qu'à travers une critique de sa politique. Chose qui n'a pas encore eu lieu.
Alors que la Tunisie vit à nouveau au rythme des manifestations, Bourguiba, juché sur sa monture, continue d'observer le destin de son peuple s'écrire sous ses yeux. Amira Swilem, Tunis, RFI.
Il est 5h50 à Tunis, 6h50 à Paris. Notre invité Afrique à écouter dans moins d'une heure sur RFI. Nous serons avec Mohamed Malik Fall, sous-secrétaire général de l'ONU, coordonnateur résident au Nigeria, en charge notamment de la réponse humanitaire. Samedi dernier, il était à Maïdougouri, avec une délégation du gouvernement nigérian. Maïdougouri, épicentre d'une crise humanitaire majeure dans le nord du Nigeria, puisqu'à la crise alimentaire et sécuritaire qui frappe la région est venue s'ajouter la catastrophe d'Alo, ce barrage à 20 km de la capitale de l'état de Borno, a cédé suite à des pluies diluviennes. Le dernier bilan officiel, près de 40 morts et 400 000 personnes déplacées.
Les conditions sont horribles, une forte congestion, quelquefois des conditions d'assainissement et d'hygiène qui sont extrêmement limitées, le manque de nourriture, des enfants qui sont malades. N'oublions pas que tout ça se passe sur un terrain qui était déjà très fragile. L'état de Borno est l'épicentre de la crise de Boko Haram depuis 2009. Et c'est dans ce contexte-là que cette inondation vient à la limite nous faire reculer par rapport au travail qui était en train d'être entrepris pour résoudre la question des déplacés sur la durée.
6 jours après, il y a encore de l'eau dans la ville.
Il y a encore beaucoup d'eau dans la ville. Et je crois que ce taux-là va rester encore longtemps.
Cette catastrophe survient aussi en pleine crise alimentaire. notamment en pleine période de soudure.
Non seulement c'est une période de soudure, mais c'est aussi dans un contexte où, à cause des réformes économiques entreprises par la nouvelle administration, on a observé et on observe depuis plusieurs mois une inflation galopante, surtout une inflation sur les denrées alimentaires. On parle même de 40% d'inflation sur une année, en plus du fait maintenant qu'on est dans la période de soudure. La grosse crainte, moi, que j'ai et que j'observe, c'est aussi quel impact cette inondation va avoir sur les récoltes, parce que si les gens sont empêchés de se livrer à des travaux champêtres, si l'eau compromet la récolte, on risque de se retrouver donc avec une saison encore plus difficile que prévu. Alors que tous nos espoirs, c'était qu'il y ait une bonne saison et une bonne récolte pour avoir plus de disponibilité de produits alimentaires sur le marché.
Mohamed Malik Fall, sous-secrétaire général de l'ONU en charge de la réponse humanitaire. On l'écoute tout à l'heure avec Guillaume Thibault.
RFI Matin.
Afrique économie, le secteur privé peine toujours à se développer en Centrafrique. Le pays a du mal à attirer les investisseurs et comme beaucoup d'activités et d'initiatives se font dans le domaine informel, tout ça échappe à la fiscalité et ne contribue donc pas directement aux ressources de l'État. Pour autant, le groupement interprofessionnel de Centrafrique, le JICA, estime que le développement du pays passe nécessairement par l'essor du secteur privé. Charlotte Cossé.
Encourager les petites et moyennes entreprises, voici l'un des objectifs que s'est donné le JICA, l'une des deux associations patronales du pays qui compte une cinquantaine de membres. Pour lui, le développement économique de la Centrafrique passera par les PME. Jonathan Nouganga, trésorier général de l'organisation, il s'en fait le porte-parole.
Le seul vecteur de croissance pour nous, ce sont les PME. Je prends un exemple des entreprises de téléphonie mobile. Leur vecteur de croissance n'est peut-être que sur des services à valeur ajoutée. Mais en termes d'abonnement ou d'abonnés, ils ne pourront pas croître beaucoup plus d'une année sur l'autre. Par contre, une PME peut facilement doubler, tripler son chiffre d'affaires selon qu'elle obtient des marchés, selon qu'elle se formalise, selon qu'elle soit pérenne dans le temps. Bien entendu, il y a un patriotisme. Plus il y a d'entreprises, plus le tissu économique est formel et important, plus on peut avoir un développement important, plus on donne les moyens au gouvernement de pouvoir réaliser ses objectifs et de réaliser les investissements structurels nécessaires. Pour cela, il faut un secteur privé fort et surtout formalisé.
Pour cela, le JICA travaille surtout à faire entendre la voix des entrepreneurs.
On se dit que plus on est nombreux à se connaître, plus on est nombreux à partager les mêmes problématiques, mieux on pourra trouver de solutions. Et le JICA aussi en représentant au niveau du guichet unique de formalité des entreprises. Donc on remonte les problématiques ou les problématiques de ces administrations aussi nous sont remontées. Donc on essaye d'être une plateforme de discussion. On croit au dialogue public-privé. On croit que le JICA peut contribuer au plaidoyer de toutes ces petites PME.
Des problématiques dont les autorités se disent être bien conscientes. Jean-Baptiste Koba, ministre conseiller aux investissements de la présidence.
Motiver les investissements, c'est rassurer et créer un climat des affaires pro-business et qui puisse redonner confiance donc à une communauté d'investisseurs qui très souvent préfère investir dans d'autres pays où le cadre est effectivement plus favorable. C'est le cadre des affaires en Centrafrique, l'environnement des affaires qu'il nous faut impérativement améliorer. Nous devons rassurer la communauté des investisseurs sur le plan judiciaire. Nous voulons plus de quiétude, plus de sécurité dans le respect des contrats, dans les procédures, par exemple, de licenciement.
Une loi sur le climat des affaires attend depuis plusieurs années d'être votée à l'Assemblée nationale. Dans un récent mémorandum, le JICA souligne également les défis structurels rencontrés par les entrepreneurs, la disponibilité et le coût du carburant, les questions énergétiques de manière générale et la qualité des infrastructures.
Charlotte Cossé, vos prochains rendez-vous éco dans RFI Matin, les matières premières, on parle d'hélium, un premier pas vers une diversification de l'offre en Europe de l'Ouest. Et puis aujourd'hui, l'économie avec un gros plan sur le commerce du sang. Le sang humain a fait son apparition dans le top 10 des exportations des États-Unis. Nathalie Vitran nous expliquera comment et pourquoi. Et puisque vous resterez avec nous au-delà des RFI Matin, je vous signale qu'Appel sur l'actualité avec Juan Gomez ouvre le débat autour de la première année de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, un an après sa création par les militaires au pouvoir au Mali, Niger et Burkina Faso. L'AES vous semble-t-elle crédible? Vous appelez Juan au 33 9 693 693 70. Et voici le sourire de Maman avant le prochain journal, dans moins de 4 minutes maintenant. Maman, aujourd'hui, dans l'actualité, nous sommes noyés sous les chiffres.
Oui, il y a quelques décennies, Dalida chantait « Paroles et paroles et paroles » et oui, une chanson pour moquer tous ces beaux parleurs qui font miroiter des alouettes et des châteaux en Espagne et à Dubaï. Dragueurs impéditants ou hommes politiques en campagne. Mais aujourd'hui, la pauvre Dalida est complètement dépassée. Bah oui, les gars ne nous blaguent plus avec des paroles seulement. Hein. Ils ont ajouté à leur arsenal des chiffres. Et oui, partout où tu regardes ou laisses traîner une oreille, c'est des chiffres et des chiffres tout le temps, mon ami. On ne se parle plus, on ne nous parle plus. On nous balance des chiffres à la face en guise de bonjour. Des chiffres pour bon appétit, des chiffres et des chiffres pour nous endormir. Et comme dit le poète, les paroles s'envolent, mais les chiffres restent. Au point même où des chiffres et des lettres a préféré tirer sa révérence. Quand nous étions petits, à l'école, ben on nous a appris le calcul en comptant sur nos mains ou des bâtonnets. Et plus tard, on comptait sur le nombre de tomates que la mère de Mamadou Ebinetta a ramené du marché en sachant que le kilo de tomates coûtait 150 francs et que cette gourmande de Binetta en a mangé un certain nombre à l'insu de sa maman. Quand tu avais la bonne réponse, ben c'était 10 sur 10. Si tu te plantais, tu avais zéro ou en tout cas une mauvaise note par pitié. Des chiffres depuis l'enfance, mon ami. T'as quel âge? Un chiffre encore. Tu fais quelle taille? Quel poids? Des chiffres. Rien que des chiffres pour te cerner, te connaître, t'identifier. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre, disait numéro 6 dans la série Le Prisonnier. Le Prisonnier, une série que les moins de 20 ans, encore un chiffre, ne peuvent pas connaître. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des chiffres. Numéro de sécurité sociale, identifiant fiscal, numéro de téléphone, de permis de conduire, numéro d'assurance, compte bancaire. Des chiffres, toujours des chiffres pour dessiner ton portrait en binaire dans la matrice, mon ami. Tension artérielle, taux de sucre, nombre de pas par jour, taux de cholestérol, âge de départ à la retraite, on n'est que des chiffres. Et ça monte en tour quand tu regardes l'actualité. Certaines personnes ne sont plus que des chiffres. Après déjà avoir perdu leur nom, prénom, nationalité, genre, bah, par exemple, 150 migrants noyés par ici, 720 abandonnés dans le désert, 221 reconduits à la frontière, des centaines de milliers sur les routes. Des chiffres, que des chiffres. Mais ils ne sont pas seuls, les migrants. À Gaza, ben à Gaza, il n'y a plus de visage, il n'y a plus que des chiffres aussi. 40 000, 100 000 ou 200 000, tu ne sais plus si c'est le nombre de victimes de bombes ou de bâtiments rasés. À Kiev ou dans le Donbass, au Kivu ou dans le Maniema, à Khartoum ou au Darfour, ben c'est pareil. Des chiffres et des chiffres, toujours des chiffres. Oh là là, mais ramène-nous Dalida. Paroles et paroles et paroles et... Eh oui, à demain.
À demain, Maman, et merci. On vous trouve à tout moment sur l'appli RFI Pure Radio. Dans 30 secondes, le journal.
Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Pour dénoncer la crédulité des fonctionnaires russes, un artiste activiste réfugié en Pologne tente de les piéger. Il leur donne des consignes farfelues et prétendument patriotiques. Il publie ensuite leurs vidéos sur Internet.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.